Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, Christophe Jubien pour vous accueillir à bord de la dernière émission par ici, les sorties de l'année. Aujourd'hui, promenade, nous allons au CONPA, le Conservatoire du Machinisme et des Pratiques Agricoles de Chartres a fait peau neuve l'an dernier, avant de rouvrir ses portes en septembre avec une nouvelle muséographie et de nouvelles missions. Nous allons faire connaissance avec l'une et l'autre grâce à Marion et Mélanie qui nous font visiter les lieux.
Tout d'abord, on a souhaité mettre aux normes le musée, donc notamment aux normes d'accessibilité. On a désormais un ascenseur qui permet de monter sur la mezzanine et les personnes en situation de handicap peuvent accéder à l'intégralité du musée. Ensuite, nous avons souhaité que ce musée soit plus confortable en prévoyant des espaces de détente pour les visiteurs, la librairie boutique est aussi plus développée qu'avant. Donc voilà pour les espaces de détente. Et ensuite, c'est un musée modernisé avec une scénographie entièrement revue, avec des multimédias, des audiovisuels et un espace ludique pour les enfants.
J'ouvre une parenthèse, l'espace librairie boutique, c'est important pour vous? Ça fait vivre aussi le compas?
Oui, tout à fait. Donc, on y trouve des ouvrages spécialisés sur l'histoire rurale et le machinisme, mais aussi beaucoup d'idées cadeaux, là, en ces périodes de fête, avec des jouets pour les enfants et des produits du terroir aussi, qui permettent de mettre en valeur le territoire d'Eure-et-Loir.
Donc, on va découvrir la scénographie, la nouvelle scénographie du compas, qui a dû être totalement repensée. Tiens, Marion Ménard, qui est à mes côtés, qui va nous parler de la scénographie. Puis après, on va la découvrir au fur et à mesure, on va se balader tous ensemble.
Oui, alors une nouvelle muséographie et une nouvelle scénographie. Une nouvelle muséographie, ça veut dire qu'on a changé le discours qu'on tenait au musée avec différents espaces qui abordent différentes thématiques. Et puis la scénographie, c'est-à-dire la mise en espace, où on a également du coup tous les œuvres et objets qui sont présentés de manière nouvelle.
Qu'est-ce qu'un changement de discours pour un musée ?
Alors un changement de discours, c'est pas forcément un changement, mais c'est plutôt des re-questionnements, questionner différemment. C'est un musée qui a beaucoup évolué, puisque ça faisait 25 ans qu'il était ouvert. Et à l'origine, c'était un musée vraiment de sciences et techniques, à l'ouverture, donc beaucoup centré sur les machines. Et au fil du temps, ce musée a évolué vers un musée de société. Et toutes ces questions d'actualité et de société étaient beaucoup abordées au travers des expositions temporaires. Donc là, on a vraiment aussi voulu le réaborder ces questions à l'intérieur de la collection permanente.
C'est un conservatoire en ce qu'il donne à voir et à découvrir le passé, mais c'est un musée en ce qu'il nous projette aussi vers l'avenir. Ça a toujours été la mission du compas que d'interroger l'avenir finalement.
Oui, tout à fait. Quand on parle du compas, on dit toujours hier, aujourd'hui et demain. Puisque voilà, il regarde hier, parce que voilà, c'est un petit peu son rôle de se faire la mémoire de ce monde rural et de toutes ces mutations depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, parce qu'on interroge un petit peu toutes les pratiques agricoles actuelles, et puis demain, parce que c'est évidemment bien sûr le rôle de ce musée de questionner l'agriculture du futur, quoi. Comment de nourrir de 9 milliards d'hommes en 2050, par exemple.
Ça, c'est un sacré défi qui nous attend. Hein. On va se promener ? Alors là, nous voici dans la partie musée avec la découverte de superbes engins.
Oui, alors nous avons souhaité en fait présenter aux visiteurs trois espaces thématiques consacrés aux grandes opérations agricoles, le travail du sol, les semailles et les récoltes. Et en parallèle, nous avons cette grande ligne des tracteurs emblématique du compas qui présente les premiers tracteurs américains des années 1910, ces grosses machines qui étaient utilisées dans les grandes plaines américaines ou canadiennes pour faire des travaux de labour.
Parce que la Beauce, c'est tout petit hein, par rapport au Kansas, par exemple.
Oui, tout à fait. Et donc ensuite, on passe sur toute l'histoire de la motorisation, en passant par les semi-diesel jusqu'au diesel et enfin tractobrique. Ce fameux tracteur entièrement conçu en briques Lego, près de 800 000 briques ont été nécessaires à sa réalisation et c'est vraiment l'attraction du musée pour les enfants.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce super, c'est dommage qu'on n'ait pas l'image à la radio, mais ce Sawyer Massey, ça nous ramène vraiment là aux origines de l'agriculture mécanisée, non ?
Oui, alors ce Sawyer Massey a été importé des États-Unis et en fait c'est une pièce très très rare, une des seules en Europe, et elle a été entièrement restaurée par l'atelier de restauration du compas, donc plus de 3000 heures de travail, voilà, pièce par pièce, et il fonctionne. Lors d'événements spécifiques, voilà, le moteur est tournant, il fait beaucoup de bruit et c'est très impressionnant à voir. Il vaut mieux pas être sur son passage.
Il se trouve où cet atelier de restauration et qui s'en occupe ?
Il se trouve à Mainvilliers, pas très loin d'ici. Il est géré par le Compas. En fait, le responsable est un agent du musée. Et par contre, ce sont des bénévoles passionnés de mécanique qui le font vivre et qui restaurent toutes ces machines qui sont adhérents de l'association des Amis du Compas.
Alors, ces machines, on pouvait les voir, évidemment, dans l'ancienne configuration des lieux. Mais là, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, on a à nos côtés Catherine Egas qui est en train de pianoter. Elle joue pas de la musique, elle pianote sur un panneau qui permet de quoi faire.
Oui. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que à peine 10% des collections sont présentées dans ce musée. Le reste est en réserve. Et donc, nous avons voulu que le visiteur puisse découvrir les autres pièces des collections. Et donc, à travers cette borne multimédia, il peut en savoir plus sur les machines et découvrir d'autres pièces qui ne sont pas visibles, malheureusement, ici, car le lieu est trop petit.
Est-ce qu'il y a un turnover au niveau des machines ?
Oui, bien sûr. L'idée, c'est que les pièces changent de temps en temps. Voilà.
Si on allait voir le tractobric, je ne l'ai pas encore vu, moi. Alors, il y a vraiment des superbes machines. On imagine, vous l'avez dit, les heures de travail. Et puis, il faut avoir des compétences particulières parce que les moteurs ont évidemment changé. Tout ça, c'est de la mécanique du passé. Hein.
Oui, il faut vraiment être passionné de mécanique et de technique. Et puis, potasser aussi les livrets d'entretien qui étaient diffusés alors. Et puis, c'est des mois et des mois de recherche de pièces détachées sur le net et puis dans les foires agricoles.
Est-ce qu'il y a des tracteurs français ici ? Oui, parce que finalement, le tracteur est né aux États-Unis pendant très longtemps. On a fonctionné avec des tracteurs américains ici, hein, en Beauce comme ailleurs.
Oui, alors d'ailleurs, on peut parler de ce tracteur dit Petit Gris, qui est emblématique du plan Marshall qui a été instauré en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qui a permis à la France de se reconstruire. Donc il était très répandu, car peu cher et assez maniable. Il était importé en pièces détachées des États-Unis et puis ensuite monté ici en France.
Le tractobric, c'est pas ça quand même, si ?
Alors si, c'est ça. Donc près de 800 000 briques, près de 3 tonnes. On peut monter dans la cabine. Donc on a choisi ce modèle parce qu'il a été primé au dernier CIMA pour sa cabine panoramique.
CIMA ?
Le Salon international de la machine agricole. Qui a lieu tous les 2 ans à Villepinte, à Paris, en région parisienne. Et donc, il est considéré comme très innovant avec cette cabine panoramique qui permet de voir très bien les champs.
Alors pour ceux qui ne l'ont jamais vu, il faut absolument venir parce que vraiment, moi j'étais à 100 lieues de penser qu'il s'agissait là d'un tracteur en Lego. On a vraiment l'impression qu'il va démarrer d'un instant à l'autre.
Hein. Oui, alors l'essieu en fait a été donné par l'entreprise Class Tractor qui nous a soutenus sur ce projet. Et donc du coup il peut rouler en fait. Et par contre ensuite la coque a été conçue en Lego.
Il peut rouler, on peut le faire rouler comme ça dans un champ et s'en servir de ce tracteur ?
Alors, il roule, il ne démarre pas mais il roule. Il y a un système de freinage hydraulique également, donc il est assez perfectionné. Vous voyez, il clignote également, voilà.
Poursuivons notre route alors.
L'idée en fait était de montrer aux visiteurs que le changement d'échelle, finalement ce petit tracteur d'aujourd'hui est aussi gros que les plus gros qu'on possède, et aussi de montrer que le confort de l'agriculteur s'était vraiment amélioré avec cette cabine qui permet de moins entendre le bruit, un siège très ergonomique, un GPS, etc., etc.
Je me suis laissé dire qu'il y avait même aujourd'hui des tracteurs qui roulent tout seuls. Ça, il n'y a pas besoin de personne dans la cabine.
Oui, alors je crois que c'est en projet aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est effectivement des réflexions avec grâce au GPS où on peut conduire à distance, piloter à distance un tracteur. Mais en tout cas, aujourd'hui en France, je crois qu'on est en phase d'expérimentation.
Alors maintenant, on va changer d'époque, changer de temps. Et on va s'intéresser à l'art contemporain parce que c'est aussi un musée d'art. Le Compas, il y a toujours eu des expositions et parfois même de grands artistes. Je pense aux fameuses boules de Jean-Luc Parent, qui est vraiment ici un habitué des lieux maintenant d'ailleurs.
Oui, alors effectivement, nous avons souhaité que l'art, et notamment contemporain, soit très présent au sein du musée, côtoyant finalement les machines et les objets. Et on pense par exemple à cette œuvre de Didier Marcel qui a généreusement été prêtée par le FRAC Bourgogne, le Fonds d'art contemporain, Fonds régional d'art contemporain de la région Bourgogne. Et donc en fait, il s'agit d'un immense bas-relief qui représente un morceau de terre labourée. Et donc on trouve que c'est vraiment intéressant en vis-à-vis des machines. Et on a également d'autres pièces qui sont issues de nos collections, comme les bottes de 7 lieues de Lilian Bourgeat, effectivement les fameuses boules de Jean-Luc Parent, des photographies de Jacqueline Salmon, d'Hervé Robillard, d'Éric Poitevin et de bien d'autres. Voilà, donc c'est vrai qu'on trouve que ça apporte un regard singulier, un autre regard sur ces témoins de l'histoire rurale et agricole.
C'est un conservatoire qui intéresse les artistes, parce que c'est un beau lieu d'exposition.
Oui, alors c'est vrai qu'on est dans une ancienne rotonde SNCF. Le bâtiment date de 1905 et on peut apercevoir une architecture type Eiffel, donc entièrement en métal et la luminosité est vraiment intéressante ici.
C'est un
lieu qui inspire les artistes et puis nous on aime bien aussi les faire travailler.
Vous avez actuellement une exposition d'ailleurs de photos.
Alors on a une exposition monographique du photographe Jean-Luc Fievé, qui est un photographe originaire de Chartres mais qui travaille depuis plus de 30 ans à New York comme photographe de mode, et ici il nous présente une partie de sa série Pleine Face. Donc où il a pris en photo de très près des portraits de gens. Et donc c'est assez intéressant, en fait, on voit tous ces hommes et ces femmes pris en photo dans différentes villes qui sont présentées. Parce qu'en fait, au compas, ce qui nous intéresse également, c'est le rapport ville-campagne, cette relation assez compliquée entre la campagne et la ville. Donc du coup, cette exposition permet aussi de traiter cette thématique.
Ouais. On sait que les agriculteurs ont souvent mauvaise presse, on les accuse de disperser des pesticides un peu partout. Est-ce que vous essayez aussi de redorer, si besoin est, l'image de l'agriculteur et de la paysannerie ?
Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est de montrer finalement toutes les représentations du monde rural, donc à la fois les bonnes et les mauvaises. Et d'ailleurs, ces représentations sont visibles dans l'espace intitulé « Album ». Il s'agit d'un grand film interactif, d'un grand spectacle audiovisuel où on voit finalement cette longue histoire des paysans et tous les regards qui sont portés sur eux, négatifs comme positifs.
Ce spectacle est permanent, c'est-à-dire qu'on peut y assister à n'importe quel moment ?
Oui, tout à fait. En fait, il dure une vingtaine de minutes, mais il est en boucle. Donc, voilà.
Ce spectacle interroge l'image du paysan, aussi bien l'image qu'il a lui-même que l'image que les autres ont de lui. Et voilà, par l'intermédiaire de sketchs, d'humoristes connus, de publicités, de chansons, d'interviews de sociologues, de chercheurs, d'agriculteurs eux-mêmes, on a différents points de vue, d'extraits littéraires, de tableaux d'histoire de l'art. Voilà, on interroge un petit peu cette image du paysan. Et à l'arrière-plan de ce petit film qui dure une vingtaine de minutes, on a un plus grand film qui dure 2 heures, qui vraiment nous plonge dans le paysage de la Beauce, avec cette caméra fixe qui filme un champ sur une année entière. Donc en fait, le visiteur, le spectateur s'assoit dans ce lieu de tranquillité, dans cette petite salle obscure, et il voit vraiment ce paysage se défiler devant ses yeux, enfin plutôt les saisons défiler. Voilà, aussi bien on passe par les moissons, la neige qui tombe, le brouillard, la nuit qui tombe. Voilà, avec cette idée de tranquillité, de temps qui passe.
C'est-à-dire que vous interrogez aussi, évidemment, le métier d'agriculteur, mais aussi les paysages. Le paysage, c'est aussi important parce qu'ils sont le reflet de l'activité humaine.
Tout à fait. Vraiment, le territoire, la question du paysage, c'est quelque chose qui a toujours intéressé le musée, qui lui a consacré plusieurs expositions temporaires, notamment il y a quelques années, Images-paysages, histoire des représentations du territoire. On avait beaucoup de photographes professionnels et amateurs qui ont interrogé notre territoire, à la fois Beauce et Perche. Et là, dans les cabinet de curiosité, l'almanach, qui est encore une autre partie du musée.
Est-ce qu'on peut aller, le voir ?
On a une partie sur le paysage, justement, qui s'interroge sur le remembrement, sur l'évolution de ce paysage.
Les cabinets de curiosité, c'est très vieux, mais on voit que ça revient au goût du jour un peu.
Oui, tout à fait. Donc en fait, on l'a appelé l'almanach, les cabinets de curiosité, l'almanach au sens où en fait, il y a 12 thématiques, un petit peu comme chacun des 12 mois de l'année. Et sur cette 12 thématiques, on a essayé un petit peu de brosser un parcours du monde rural. Donc là, vous avez par exemple l'enfance, la chasse, l'argent, la politique, les femmes, le paysage, le village. Voilà, des thématiques pas purement agricoles, on va dire. Voilà, c'était aussi, on voulait replacer dans ce musée la place aussi de l'homme à la campagne, des objets qui racontent cette histoire de la vie rurale.
On peut voir des tas de choses, hein. Il y a effectivement des objets utilitaires, mais il y a aussi des jouets, il y a des images et il y a du texte aussi.
Tout à fait. C'était un petit peu l'idée du cabinet de curiosité, cet aspect hétéroclite, on va dire. On voulait que le visiteur soit un petit peu surpris, étonné, que ça le dérange, qu'il s'interroge, qu'il ait envie de s'approcher. Donc, vous voyez, la scénographie, c'est une sorte d'empilement de différentes caisses, de différentes tailles. Donc, on a aussi bien un gros objet qu'à côté, plein de petits où on est obligé de s'approcher. Et on a souhaité mettre côte à côte en regard aussi bien des objets de nos collections que des objets complètement contemporains, certains achetés pour l'occasion. Voilà, pour vraiment parler de ces transformations, de ces mutations du monde rural.
Je vois qu'il y a même le sujet de l'argent qui est abordé. On sait que c'est assez tabou dans le monde agricole. Si on a un peu d'argent, on le cache. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur l'argent ? Qu'est-ce que vous nous dites de l'argent ?
Alors sur l'argent, c'est un parti pris. Et puis on n'avait pas une volonté d'être exhaustif dans ces choix d'objets. Donc là, par exemple, vous avez des bas de laine, tout simplement pour faire écho à cet aspect le paysan qui accumulait ses sous qu'il mettait dans son placard ou sous son lit. Vous avez une tirelire qui était offerte par certaines banques, par exemple Caisse d'épargne. On a aussi tout ce qui concerne les crédits, les emprunts. Voilà, les faits par les bornes, par exemple, les banques, pardon, le Crédit National en 1920. Voilà, beaucoup d'affiches, parce que nous avons beaucoup d'affiches dans nos collections. Des clés, un trousseau de clés pour parler de la propriété, parce que l'argent, c'est aussi cet héritage, cette propriété qu'on transmet à cet enfant et ce patrimoine. Voilà, avec toutes les idées un petit peu en tirant les fils. Voilà, c'est aussi ce nouveau compas, une réflexion de l'ensemble de l'équipe où on a essayé aussi de solliciter. Et quand on allait voir différentes personnes en disant qu'est-ce que t'évoques ce mot-là, chacun a un petit peu proposé des idées d'objets aussi qui nous a permis toute cette accumulation et un peu de parler à tout le monde.
On a obtenu également des prêts de nombreux musées, institutions, par exemple le Musée des Beaux-Arts de Chartres, les Archives diocésaines de Chartres et bien d'autres, et donc de particuliers aussi, donc on les remercie beaucoup.
Il faut quand même préciser, vous le dites, que le fonds est très important, vous êtes aujourd'hui le plus important conservatoire de ce genre en France.
Effectivement, aujourd'hui, on est, on va dire, un des seuls musées en France qui traite de l'agriculture d'une manière générale, de la modernisation de l'agriculture au 19e et 20e siècle. Il y a bien sûr de nombreux petits musées sur la vigne ou sur telle ou telle technique agricole, mais un musée comme ça qui veut parler de l'agriculture de manière générale en France et à travers le monde, puisqu'on a également des objets qui proviennent de partout dans le monde, on est vraiment les seuls.
Une question me vient aux lèvres. Quel est le sentiment des agriculteurs ? Est-ce que les agriculteurs viennent au compas ? Et l'image qu'il leur est renvoyée, comment l'apprécient-ils ?
Alors, déjà, c'est pas marqué sur leur front qu'ils sont agriculteurs quand ils rentrent.
Je suppose un livre d'or, par exemple.
Oui, tout à fait. Non, bien sûr, on a des bons échos de gens qui, ils retrouvent aussi. Alors, on a différents publics, donc on a tout le public, beaucoup des personnes âgées qui retrouvent, leur passé devant tous ces objets ou devant des tracteurs qu'ils ont pu utiliser, etc. Et puis, c'est intéressant de voir souvent les grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants. Et là, on a d'autres discours, on a un dialogue qui se met en place entre eux avec ces enfants qui souvent ne savent pas à quoi servent les objets. Par exemple, dans les cabinets de curiosité, on a vraiment fait exprès de ne pas mettre les cartels, c'est-à-dire les légendes des objets, juste à côté, pour que les gens puissent s'interroger et que ça amorce une sorte de dialogue. Souvent, l'enfant va demander à sa grand-mère, qu'est-ce que cet objet ? Ça pose beaucoup de questions. Et donc, c'est par l'intermédiaire d'un petit livre qu'on va chercher avec des photos où on retrouve les objets, qu'on découvre de quand de cet objet, à quoi il servait. Voilà, c'est vraiment ce lien privilégié entre les générations. Donc oui, les agriculteurs, je pense qu'ils y retrouvent pas mal de choses, et puis pas forcément beaucoup de choses de l'agriculture d'aujourd'hui en termes d'objets, puisqu'on a dit qu'au niveau des tracteurs, les tracteurs modernes prennent beaucoup de place, et qu'on en a un exemple par l'intermédiaire du tracteur en Lego. Mais en tout cas, sur les pratiques agricoles, oui, ils s'y retrouvent.
Alors, le compas, parce que là, l'heure tourne, le compas, c'est sont aussi des événements avec, il y a des colloques, il y a aussi un festival du film. Est-ce que tous ces événements vont être pérennisés? Il y a eu des rencontres cinématographiques ou...
Oui, alors les événements qui sont un peu des points de repère pour les visiteurs vont bien sûr être maintenus. Nous aurons des rencontres cinématographiques l'année prochaine en mars. Nous aurons également une grande fête des tracteurs. C'est une biennale qui rencontre vraiment un succès, qui aura lieu en juin de l'année prochaine sur la thématique des tracteurs du plan Marshall. Mais l'idée, c'est aussi de renouveler notre offre événementielle et essayer d'aller chercher de nouveaux publics. Donc on va également proposer une nouvelle offre pour ce public.
Et notamment l'offre à destination des familles, qui est un espace dont on n'a pas encore parlé, qui est l'espace jeux et jouets à destination de ces familles, où en fait on a une sorte de cabane, d'étable avec des animaux, on a tout un potager, on a des arbres fruitiers, où voilà les enfants sont invités.
C'est virtuel ou...
Non, réel, où sont invités, on peut
aller. Allons-y, oui. Allons au jardin.
Les enfants sont invités à jouer le rôle vraiment de l'agriculteur. Donc c'est un espace qui fonctionne très très bien. Voyez, donc là on découvre que les pommes de terre sont vraiment sous terre, que les carottes il faut les déterrer, que les salades sont plutôt posées comme ça en surface. Voilà, ils jouent à faire semblant. On a aussi des jeux de société et des jeux de construction, donc sur la thématique de la ferme. Et donc en rapport avec tout cet espace un peu familial et ludique, nous allons proposer beaucoup plus d'activités réguliers pour que ce public prenne vraiment le pli de se dire tiens, il y a toujours une activité familiale au compas, qu'est-ce qu'il y a ce mois-ci? Il y a avec des activités pour les bébés au musée, notamment pour les enfants entre 15 mois et 3 ans, des activités familiales le premier samedi de chaque mois qui s'appelle Amusez-vous au musée, voilà, où on a vraiment envie que les gens viennent en famille et se disent le musée c'est pas un lieu sérieux et on peut aussi venir s'amuser et passer un bon moment.
C'est un lieu tout de même sérieux, mais on peut aussi s'y amuser. Sérieux parce que vous le disiez tout à l'heure, vous interrogez l'avenir et la question qui est souvent posée, je l'ai souvent entendu poser ici, comment va-t-on nourrir la planète? Vous l'avez dit tout à l'heure, dans les années à venir. Est-ce que vous avez des réponses à nous donner là?
Alors effectivement, il y a un dernier espace dont nous n'avons pas parlé. Il s'agit de l'espace intitulé Atlas. Donc c'est un espace où finalement on change d'échelle, on était très centré sur la France. On s'intéresse au monde et on se pose effectivement ces questions au niveau global. Comment nourrir 9 milliards d'hommes? Comment gérer la ressource en eau? Comment éviter la pollution des sols, etc., etc. Très bientôt, nous aurons un grand jeu interactif qui permettra de répondre à ces questions, ou en tout cas de s'interroger sur ces questions fondamentales pour l'avenir.
L'interactivité, c'est vraiment absolument indispensable aujourd'hui pour un musée.
Oui, tout à fait, parce que c'est dans les habitudes de vie des visiteurs. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils aiment bien retrouver parce que c'est des codes habituels, connus. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'interactivité, on a mis en place les bornes multimédia dont on parlait au début de la visite, qui permettent de retrouver plein d'informations sur les collections, notamment les expositions, les collections qui ne sont pas présentées. Et on est beaucoup dans l'interactivité au sens de manipulation aussi. On a beaucoup encore de manipulation pour comprendre comment fonctionne une charrue, pour comprendre les engrenages d'un moteur. Après, on a beaucoup de petites animations ludiques, notamment dans les cabinets de curiosité, sur, par exemple, les dictons, où d'un côté, on appuie sur un bouton pour entendre le début d'un dicton, sur les différentes saisons, le temps qui passe, et puis on doit retrouver la fin du dicton. Voilà, des petites choses, en fait, qui est une façon de faire passer un contenu, mais de manière un petit peu ludique.
Il nous reste, enfin on arrive, pour tout dire, au terme de cette émission. Quelle est la prochaine manifestation que vous organisez? Tiens, sachant que cette émission sera diffusée fin décembre.
Alors, en termes de manifestation, si on peut dire, c'est la prochaine grande exposition qui ouvrira au mois de mars, qui portera sur la fin des paysans. Alors, plutôt avec un point d'interrogation. Tout à fait, c'est ce que j'allais ajouter. Point d'interrogation. Alors, le point de départ, c'est un hommage au livre du sociologue Henri Mindras, qui avait écrit « La fin des paysans sans point d'interrogation » en 1967. Et donc, pour fêter ses 50 ans, on se réinterroge sur cette affirmation. Et nous, on le tournera plutôt sous forme de questions. Et ça sera notamment une exposition qui abordera pas mal un côté artistique, en fait, sur l'image du paysan. Comme une sorte de triptyque, puisque le compas a déjà présenté il y a quelques années une exposition donc sur la fin de la faim, comment nourrir les hommes. C'était plutôt donc les modes de production, etc., agricoles. Une exposition dont on parlait tout à l'heure sur les paysages, sur le territoire. Donc là, c'était plutôt voilà comment le paysan qui cultive modèle son territoire autour de lui et son paysage. Et là, donc, ce serait plutôt un troisième volet sur ce paysan, cette image du paysan, de cet agriculteur. Et qui est-il aujourd'hui ?
Merci beaucoup à toutes les deux. Si on veut de plus amples renseignements, évidemment, on peut visiter le site du Compas. Il y a un site ?
Tout à fait, www.lecompas.fr.
Et voilà, fin de la visite. Un grand merci à Mélanie et à Marion du Compas. Et le mieux, c'est encore évidemment de visiter physiquement ce nouveau lieu, ce nouveau Compas avec une nouvelle muséographie, nouvelle scénographie et qui dispose de plein de ressources qui ne manqueront pas de vous passionner, j'en suis sûr. Voilà, fin de cette édition de Par ici les sorties. Je vous dis à dans 4 semaines pour une nouvelle édition chartraine de cette émission consacrée à l'actualité culturelle eurélienne.